Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ça ne nous étonne pas quelque part, parce qu'on est en manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre.
Une évasion et des questions à la une ce soir. Un vieux fourgon et du personnel visiblement trop peu nombreux. Quatre détenus des Baumettes à Marseille ont réussi à s'échapper pendant leur transfert.
L'un de ces rendus, mais les trois autres courent toujours. Témoignage dans un instant et précision avec vous, Salomé Legrand.
À la une également cette mini-tornade qui a réveillé les habitants d'Arles ce matin.
Secoué, ouais. Comme un Orangina. Tout est éparpillé par terre, un désastre par terre.
Ouais, secoué, dégâts très importants, des toitures qui s'envolent et des mobilhomes soulevés par le vent.
La politique ce soir et le Premier ministre Édouard Philippe qui tranche sur la question de la laïcité. Oui, on peut accompagner une sortie scolaire en portant un voile, dit-il. Il ne souhaite pas changer la loi.
Le ministre des Affaires étrangères va partir en Irak pour discuter avec les Kurdes de la sécurité des camps où sont détenus les djihadistes étrangers au moment où l'offensive turque se poursuit. Ce soir à Paris, tous les partis politiques seront représentés lors d'une réunion sur le sujet. Ce sera notre coup de fil du 18h.
Et puis on connaît Sébastien, le parcours du prochain Tour de France entièrement dans la moitié sud et avec beaucoup de montagnes. Tout pour plaire a priori aux baroudeurs.
Un parcours comme ça, ça peut qu'offrir un beau spectacle.
Ça donne de beaux espoirs en tout cas à Julien Alaphilippe. La bourse de Paris termine en nette hausse, plus 1,04% à 5702 points.
Et la tendance météo, c'est avec vous Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors le vent se calme à Arles, il va souffler au bord de la mer. On fera le point à la fin du journal. Le ciel sera nuageux avec encore des averses dans le nord.
Europe 1.
Les policiers étaient-ils assez nombreux et le fourgon était-il en état de transporter ses détenus hier entre le tribunal de Marseille et la prison des Baumettes? Quatre se sont fait la malle au nez et à la barbe des agents qui les accompagnaient. Ils ont forcé les portes et personne ne s'en est rendu compte. Écoutez ce témoignage du surveillant qui a découvert qu'il manquait à l'appel.
C'est du matériel vétuste, c'est utilisé tous les jours, le camion est vieux. Bah, vous savez, sur le trajet avec le deux temps tout le long, les détenus quand ils sortent, pour eux, on dirait qu'ils partent au Club Med, ils crient, ils bougent, ils sautent, ils chantent. Faut vraiment entendre un gros bruit pour s'inquiéter, quoi. Enfin, ça ne nous étonne pas quelque part, parce qu'on est en manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre.
Bonsoir Salomé Legrand.
Bonsoir.
C'est vous, Salomé, qui nous avez révélé cette évasion dès hier soir sur Europe 1. Depuis, l'un des quatre fugitifs s'est rendu, mais ce témoignage interroge et vous avez pu obtenir de nouveaux éléments.
Le récit de l'un des détenus qui était à l'intérieur du fourgon d'abord et qui a choisi de ne pas s'enfuir. Il est en ce moment jugé dans un tentaculaire dossier de blanchiment et il a expliqué ce matin que certains avaient réussi à ouvrir les mini-cellules du fourgon, qu'il n'y avait pas de policiers à l'arrière et que la portière était ouverte, qu'elle battait dans les virages. Quatre détenus se sont donc fait la belle à pied. L'un d'entre eux, vous l'avez dit, s'est rendu tout à l'heure. Trois sont encore recherchés. Cette évasion des plus artisanales laisse les autorités perplexes. On cherche encore à comprendre comment ça a pu se passer, me soufflait-on tout à l'heure. Ce qui interroge côté pénitentiaire, c'est le nombre de détenus pour une même escorte, 17 du jamais vu, surtout dans un fourgon qu'on nous décrit comme quasi classique. Ce transfert était l'un des derniers assurés par la police. C'est un élément de contexte important. Cette compétence des extractions judiciaires est en train d'être progressivement récupérée par l'administration pénitentiaire. La fin de la passation, c'est pour le 4 novembre prochain. Est-ce que cela explique l'état du matériel? La question est posée. L'inspection générale de la police nationale a été saisie.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Vous avez pointé, Salomé, le manque de moyens. C'est aussi ce que dénoncent les pompiers qui ont manifesté aujourd'hui.
Ils sont en grève depuis le mois de juin, tout en assurant bien sûr leur mission. Mais aujourd'hui, c'est dans la rue que leur ressentiment s'est exprimé. Des milliers de sapeurs-pompiers en uniforme venus de toute la France, à Paris, à l'appel de leurs 9 syndicats pour demander revalorisation salariale, meilleure protection face aux agressions, une meilleure reconnaissance en somme de leur métier.
C'est pour défendre une profession où on ne tient pas compte de l'âge de départ en retraite. Vous allez avoir des gens qui vont porter secours non plus avec un âge de 50 ans, 55 ans, mais pourquoi pas 60 ans. Imaginez quelqu'un de 60 ans qui monte une échelle en pleine nuit à 3h du matin pour la votre fenêtre s'il y a un appartement en feu. Pour ce type de profession, c'est carrément suicidaire.
Le gouvernement ne nous soutient plus du tout. Il y a de plus en plus d'agressions, que ce soit verbales ou physiques. C'est arrivé chez quelqu'un et cette personne est super énervée. Parce que nous, on est là pour sa femme. Et puis lui, il commence à nous sortir un couteau, un marteau.
Et à la base, vous aviez été appelé pour quoi? C'était pour un malaise?
Pour un malaise. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le quotidien.
Un témoignage de pompiers recueilli par Jean-Jacques Herry tout à l'heure à Paris.
On en vient à l'actualité politique marquée par ce retour au premier plan du débat sur la laïcité et sur le voile à l'école.
Une femme peut-elle porter son foulard lorsqu'elle accompagne la classe de son enfant en sortie scolaire ? Eh bien la réponse est oui, a tranché Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale tout à l'heure, alors que la question agitée et divisée la majorité depuis ce week-end, depuis cet incident au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté vendredi. Aurélie Herbemont, vous êtes à l'Assemblée, c'est une façon pour le Premier ministre de siffler la fin de la récré ?
Ah oui, Édouard Philippe a voulu mettre un terme à la cacophonie car l'écart est immense entre Jean-Michel Blanquer d'un côté, pour qui le voile n'est pas souhaitable dans notre société, et le député Aurélien Taché. Il déplore que le Rassemblement national puisse récupérer les mots du ministre. Une médiation sera même organisée par En Marche entre les deux hommes pour calmer le jeu. La majorité étale ses divisions, la droite s'engouffre dans la brèche. Sénateurs et députés LR veulent interdire aux mamans voilées l'accès aux sorties scolaires, mais le Premier ministre est contre une loi de ce type.
Je ne pense pas pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires. L'enjeu, c'est de combattre efficacement les dérives communautaires. L'enjeu, c'est bien d'éviter, me semble-t-il, que les enfants, à raison des convictions religieuses pouvant relever du communautarisme ou de l'islam politique, de leurs parents, échappent à l'école. Le danger de la déscolarisation est bien plus grand que l'expression d'une liberté aujourd'hui reconnue par la loi.
Alors il y a une personne dont on n'a pas entendu la voix dans ce débat, le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui ne s'est toujours pas exprimé sur la laïcité.
Aurélie Herbemont à l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Et on va en reparler longuement ce soir avec les grandes voix dans ce studio. Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Laetitia Krupa à partir de 18h30. Que compte faire justement le président de la République ? On leur posera ces questions et ils nous livreront leur analyse.
Il est 18h07 sur Europe 1. La suite du journal, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Jean-Yves Le Drian va se rendre en Irak pour discuter, Sébastien, de la sécurité des camps où sont détenus les djihadistes étrangers.
Le ministre des Affaires étrangères doit rencontrer des représentants kurdes alors que la Turquie poursuit son offensive dans le nord de la Syrie voisine. Offensive qui se poursuivra jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a réaffirmé aujourd'hui le président turc Erdogan, en dépit des menaces de sanctions brandies par Washington et par l'Europe. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu ce soir.
Et en France, des élus de tous bords se réunissent ce soir pour une table ronde à Paris avec des représentants de tous les partis à l'initiative du président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Sébastien.
Et c'est notre coup de fil ce soir. Bonsoir Esther Benbassa.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la réponse de la France à cette offensive turque ?
Je pense que les initiatives de M. Macron sont intéressantes mais insuffisantes. Et là-dessus, les États-Unis sont allés bien plus loin pour marquer le coup. Et je crois que là, il faudrait que la France rappelle l'ambassadeur de France, essayer de penser aussi à une sortie de l'OTAN, prendre des sanctions économiques, suspendre les visas d'entrée en France pour les ressortissants turcs. C'est vrai que la marge de manœuvre de M. Macron est limitée. L'indignation diplomatique ne touchera pas beaucoup M. Erdogan.
Esther Benbassa, vous-même, vous êtes d'origine turque. C'est important de le mentionner. Ce soir, vous êtes à ce rassemblement. Quel est le message que vous voulez faire passer dans l'opinion ?
Je voudrais dire, je suis née en Turquie, mais ça ne me rend pas, ça ne me rend pas différent de quelqu'un d'autre. Mais je suis spécialiste de la région, donc là-dessus, j'ai quelque chose à dire. Je crois que le message doit être stop. On ne peut pas continuer à massacrer une population. Il faut dire aux Français que les Turcs peuvent arriver jusqu'au génocide et qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour arrêter un futur génocide.
Merci beaucoup Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie et Verts. Merci à vous.
Merci.
Deux autres informations politiques ce soir. D'abord, le vote solennel de la loi bioéthique à l'Assemblée. Il est prévu dans les minutes qui viennent avec l'adoption de la PMA pour toutes. Le texte sera examiné ensuite par le Sénat en janvier. Et puis Marine Le Pen et Gilbert Collard seront jugés le 10 juin prochain pour avoir posté des images d'exactions commises par Daesh sur Twitter. Leur procès devait avoir lieu aujourd'hui, mais la présidente du RN a demandé le renvoi.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, une mini tornade a tout emporté sur son passage. C'était tôt ce matin à Arles. Témoignage dans un instant.
Et puis le Tour de France 2020 sera-t-il celui de Julian Alaphilippe? On ne sait jamais. En tout cas, le parcours donne de l'espoir aux coureurs français avec beaucoup de relief. Vous verrez.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h. 18h12 sur Europe 1, la suite de votre journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ils ont été réveillés en sursaut à l'aube par des vents extrêmement violents. Grosse frayeur hein, pour le coup pour les habitants d'Arles hein, ce matin.
Et plus qu'un orage, c'est une tornade qui a frappé le quartier de Pont-de-Croix. 5 blessés légers mais des dégâts matériels très impressionnants. Toitures arrachées, arbres envolés dans un camping. Des mobilhomes ont été soulevés par le vent. C'est le cas de celui de Jacques qui séjournait en vacances.
Secoué, ouais. Comme un orangina.
Jour de mon anniversaire.
Vous pouvez me souhaiter non, mes 70 ans, si. Alors c'est du dégât matériel, la caravane, elle s'est élevée un petit peu, elle est retombée après sur ses béquilles, mais je pense qu'elle a plus ses angles droits comme il faut. La voiture a pris aussi, enfin tout est éparpillé par terre, un désastre par terre, quoi. Ah, et mon voisin, lui, le toit de son caravane parti complètement, alors, mais bon, on est en vie, donc on va pas pleurer.
Témoignage recueilli par Stéphane Frangy, 170 familles ont été sinistrées. Et beaucoup doivent être relogés ce soir.
Ce procès très attendu par le monde policier qui a démarré aujourd'hui. La cour d'assises des mineurs d'Evry juge 13 jeunes de la cité de la Grande Borne pour avoir attaqué des agents au cocktail Molotov.
4 policiers avaient été grièvement brûlés lorsque leur voiture a été prise pour cible à Viry-Châtillon en pleine journée. Ce samedi après-midi d'octobre 2016, Guillaume Biet, les accusés avaient entre 16 et 21 ans à l'époque. Leur procès s'est donc ouvert ce matin. Il va se poursuivre à 8 clos.
Oui, à huis clos, puisque 3 des accusés étaient encore mineurs au moment de l'attaque. Ce matin, à l'ouverture du procès, on a vu l'émotion d'une policière, l'une des fonctionnaires blessées en larmes sur le banc des parties civiles en voyant les accusés dans le box. Une policière victime qui, c'est rare, assiste à l'audience en uniforme comme un symbole face aux agresseurs présumés. Un symbole aussi pour toute une profession qui attend beaucoup de ce procès, selon Loïc Travers, secrétaire national du syndicat Alliance.
Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Grigny, la Grande Borne, ça résonne comme des quartiers sensibles, difficiles, où il est très difficile d'exercer le métier de policier. Là, aujourd'hui, il y a une vraie preuve pour la justice eh bien, de passer et de soutenir, entre guillemets, les policiers au regard de ce qu'ils ont subi. Et c'est ça qui est très important pour les policiers. C'est sûr que si, effectivement, on aboutit à une relaxe générale, ce sera une catastrophe à la fois pour le moral des policiers et aussi pour les 4 victimes qui auront bien du mal à se reconstruire.
Une forte attente donc à l'extérieur, tandis que dans la salle des assises, à huis clos, les jurés vont avoir 8 semaines pour examiner cette affaire, établir les éventuelles responsabilités des accusés qui, pour la plupart, nient toute participation à cette violente attaque.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. On a appris aujourd'hui qu'une principale de collège a tenté de mettre fin à ses jours dans son établissement de Bondy en Seine-Saint-Denis. Ça s'est passé dimanche au sein de son logement de fonction. Elle dit ne plus supporter l'éducation nationale. Tout comme Christine Renon, cette directrice qui avait été retrouvée morte dans son école fin septembre dans le même département.
Ça y est, on connaît le parcours du prochain Tour de France. Alors attention, hein, ça va grimper.
Oui, on vous parlait ce matin du col de la Lauze, nouveau relief. Ce ne sera pas le seul Axel May de ce Tour 2020 qui partira de Nice, qui va rester intégralement dans la moitié sud avec un parcours donc très montagneux qui devrait nous réserver des surprises.
Oui, la montagne commencera 24 heures seulement après le départ. Le peloton ira dans l'arrière-pays niçois avec notamment le col de Turini. Puis 2 jours plus tard, première arrivée au sommet dans les Hautes-Alpes, dans la station d'Orcières-Merlette à plus de 1800 mètres. C'est rarissime d'avoir une arrivée en altitude aussi rapidement. Après un premier passage par le Massif central, puis une traversée express des Pyrénées, hop, remontée vers la Vendée pour une étape carte postale entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Un petit passage par Saran, là où il y a le musée Jacques Chirac. Le Massif central fera alors une nouvelle et belle apparition avec le Puy-Marie, le Jura avec le Grand Colombier, les Alpes encore et en particulier cette arrivée inédite effectivement au col de la Lauze au-dessus de Méribel. Et la veille des Champs-Élysées, il restera encore un contre-la-montre individuel à la planche des Belles-Filles dans les Vosges. Bref, un parcours montagneux, nerveux, emballant, disent les coureurs comme Julian Alaphilippe.
C'est difficile d'établir un scénario déjà maintenant. Déjà en temps normal, il y a toujours un peu des rebondissements, mais là, un parcours comme ça, ça peut qu'offrir un beau spectacle.
Et si le spectacle du Tour l'an prochain est au niveau de celui de cet été, alors quel que soit le prochain vainqueur, le Tour sera réussi.
Eh ben on est comme Julian Alaphilippe, on a hâte d'y être. Axel May du service des sports d'Europe 1, le 27 juin, donc le départ à Nice.
Mais l'arrivée le 19 juillet à Paris. Entre-temps des sommets que des sommets. Merci à vous. Merci Sébastien, retour de l'info 18h30.
À tout à l'heure.